Patrick Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Céliade. Nous sommes avec vous à l'Européenne et large de Midcap Event à Paris. Vous rencontrez des investisseurs. Il y a eu de l'actualité, on va en reparler, hein, avec un accord avec Horizon Discovery qui a fait largement réagir. Globalement, comment se sont passés les derniers mois de Céliade?
Ben, on a bien progressé cette année dans la finalisation de l'essai Tink, donc qui est le premier essai que nous conduisons avec notre quartier NKG2D. Et on a initié à l'été deux autres approches avec toujours le même car qui consiste à tester le car en combinaison avec un traitement standard de chimiothérapie et dans un second essai traiter le car également en pré-traitant le patient, en pré-conditionnant le patient de manière à voir laquelle des trois approches, donc la stand-alone, la chimiothérapie et avec un pré-traitement, laquelle va l'emporter en termes de ratio d'efficacité et sécurité pour nous permettre d'avancer dans une étude d'enregistrement qui devrait débuter fin d'année prochaine.
Alors on attend de votre côté un certain nombre de publications, on va y revenir, mais effectivement ce qui a fait réagir les investisseurs c'est cet accord avec Horizon Discovery. Pour vous, qu'est-ce qu'il va apporter par rapport à la plateforme Céliade?
Cet accord est principalement sur le développement de notre plateforme allogénique. Et ça va nous permettre d'une part d'avancer bien sûr dans le développement de notre technologie allogénique, mais également développer une plateforme sur laquelle on pourrait pluguer d'autres cibles, d'autres cartés qui sont développés par d'autres sociétés, de manière à les permettre d'évoluer de passer d'une approche autologue vers une approche allogénique.
Donc ça c'est effectivement ce que ça apporte. Est-ce que ça enlève aux projets initiaux et notamment au CIAD 101 quelque chose ou pas?
Non, ça renforce. Disons que CIAD 101 qui est en fait notre premier programme allogénique et utilise la technologie TIM-8 avec notre récepteur NKG2D. Mais la technologie shRNA, qui est la technologie développée par Horizon que nous avons sur laquelle nous avons un accord, va nous permettre bien sûr de consolider cette technologie, toujours avec NKG2D, mais comme je l'ai dit, éventuellement mettre d'autres chercheuses, d'autres récepteurs sur cette plateforme.
En termes, est-ce que ça a des coûts d'investissement ou comment vous allez gérer ça?
C'est relativement mineur à ce stade, puisque ce sont des étapes qui sont relativement peu avancées en préclinique. Bien sûr, au plus on se rapproche de la clinique, au plus les coûts augmentent, mais on est convaincu que ça apporte en tout cas, ça consolide notre position centrale en allogénique pour l'instant. Non seulement on a la partie brevet, qu'on a déjà parlé ensemble au cours des dernières interviews, mais surtout ici, on parle vraiment de technologie et donc potentiellement de données cliniques qui devraient arriver dans les prochains mois.
Donc là, il pourrait y avoir une idée de licence, par exemple, ou ce genre de choses?
De nouveau, ça peut être effectivement, quand on parle d'autres cibles, c'est la technologie qui ne nous appartient pas, on parle de licence. Mais surtout, on parle également de développer notre propre technologie de manière à avancer dans la clinique, auprès des patients avec ces technos.
Aujourd'hui, clairement, ce qu'on appelle les thérapies cellulaires, c'est effectivement là où vous faites, vous, le travail principal. C'est l'avenir, clairement, de votre point de vue?
On pense en tout cas qu'en immuno-oncologie, c'est une des avenues les plus citées et les plus fréquentées pour tous ces patients aujourd'hui qui ne répondent pas ou qui ne répondent que peu aux traitements existants, oui.
La société a évolué depuis qu'on se rencontre. Et effectivement, au départ, on parlait de maladies cardiovasculaires, on a parlé de cancer. Est-ce que ce chemin, il n'est pas forcément tranquille? Il n'y a pas une ligne droite? Ou en tout cas, s'il y en a une, quelle est-elle?
Mais il y a quand même une ligne directrice qui est la thérapie cellulaire. Le point commun entre l'approche d'insuffisance cardiaque et l'approche en immuno-oncologie, on utilise les cellules. Les cellules, tant d'un point de vue autologue, donc les cellules du patient envers le même patient, que dans un second temps, dans les prochaines années, au niveau allogénique. Le passage en oncologie, ça a été une opportunité, ça a été aussi une volonté de diversification et de réduction du profil de risque de l'entreprise. Qui a été fait à un moment où on n'avait pas encore les données de la cardiologie. Et je pense que les données nous ont donné raison, à savoir qu'on a eu des résultats encourageants en cardio, mais qui n'étaient pas aussi probants que ceux qu'on attendait. Et on a mis la main sur une technologie en immuno-oncologie qui a un potentiel énorme, et ce qui nous a fait maintenant depuis presque deux ans, de mettre l'ensemble de nos efforts, l'ensemble de nos ressources concentrées sur le programme immuno-oncologie. Et depuis, on a fait de gros progrès, on a des données, les données vont être communiquées. Donc on avance en parallèle sur les tumeurs liquides, les tumeurs solides, donc les tumeurs hématologiques. Ça sera communiqué en décembre au congrès H, qui est un des principaux ou le principal congrès en hématologie. Et pour les tumeurs solides, le côlon, là, ça sera communiqué au congrès CITC en novembre aux États-Unis également.
Donc là, ça sera voilà, pour vous des rendez-vous, pour les investisseurs, bien entendu, également.
Oui, c'est les deux gros rendez-vous de l'année. Sachant que CITC, c'est tumeur solide, mais surtout scientifique, d'un point de vue scientifique, le développement de la plateforme, développement du tous les programmes qu'on a conduits en recherche et développement au cours des 12 derniers mois. H, c'est plus des données cliniques. Donc vraiment les données de l'étude TINC et les premières données si disponibles déjà des deux études annexes que nous conduisons. Et qui devrait nous mener, en tout cas, nous l'espérons, l'année prochaine en études d'enregistrement.
C'est toujours un chemin long, effectivement, la vie d'une biotech, hein, avant d'arriver à ces résultats qu'attendent à la fois les investisseurs et puis bien sûr ceux qui sont dans l'entreprise. Comment on gère justement la relation investisseur aujourd'hui? Il y a des particuliers, des investisseurs professionnels, il y a des levées de fonds. C'est pas toujours évident pour notamment les investisseurs privés.
Mais d'abord avant tout le rôle dans une biotech, le rôle du CFO, le rôle du CEO, c'est avant tout, outre conduire l'entreprise, c'est surtout pérenniser l'entreprise et donc sécuriser l'accès au financement, puisque on n'a pas de recettes, on n'a pas de rentrée de fonds et par définition tous ces programmes de développement coûtent cher. Maintenant, l'investisseur est quelque part notre client. Et nous sommes également leur client, puisque les gestionnaires de fonds doivent également investir leurs fonds. Donc il y a une relation saine qui se fait entre investisseurs et émetteurs, avec des mouvements d'entrée de sortie. Et notre rôle, c'est d'essayer de réaliser des promesses ou les messages qu'on communique lors des events comme celui-ci. Et de se revoir les mêmes investisseurs 6 mois, 1 an plus tard, et de revenir avec les résultats auxquels on s'était engagé.
Avec toujours cette nécessité d'avoir, je dirais, un financement assuré par rapport à ces programmes de développement que vous avez évoqués, avec suffisamment de trimestres d'avance, en quelque sorte, pour financer tous ces programmes.
Oui, donc nous avons de la trésorerie jusqu'au milieu 2020, qui nous donne une assise confortable. Maintenant, c'est confortable, mais c'est confortable encore pendant une grosse année. Dans une année, on va devoir au plus tard lever des fonds. Donc, on est constamment en contact avec les investisseurs dans le cadre de ce qu'on appelle de la maintenance. Simplement, on les informe par rapport aux résultats et aux programmes, l'avancement des programmes, mais surtout aussi parfois dans une perspective de déceler un intérêt important et pour déclencher une levée de fonds.
Merci beaucoup, Patrick Jomard, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci.